Voilà, frères et sœurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour parler donc de notre thème « Régler mes problèmes personnels ». Alors, hier soir, nous avons... La liste, elle est longue. Moi, j'ai écrit deux livres sur « Régler mes problèmes personnels ». Le volume 2, il est épuisé. Ça parle des problèmes de l'orgueil, de la convoitise, de l'avarice, la cupidité, les excès de table, le manque d'équilibre, etc. L'hypocrisie, les péchés de la langue. Et puis le deuxième volume, le premier volume, lui il n'est pas épuisé, parle de problèmes de sentiment d'infériorité. C'était le sujet d'hier soir. Cet après-midi, si Dieu veut, nous allons parler de l'inquiétude ou de l'anxiété. Si on avait eu deux autres réunions, on aurait pu parler de l'amertume. Et puis on aurait pu encore parler de la solitude. Mais ce matin, j'ai choisi de parler de la culpabilité. Ma femme, avec un brin d'humour, elle dit, a écrit deux livres sur régler mes problèmes personnels de 270 pages, mais ils ne sont pas tous résolus, tu peux prévoir un troisième volume. En tout cas, bienvenue au club. Vous connaissez peut-être cette histoire d'un contribuable qui avait écrit à son percepteur, trésorier payeur général, à l'hôtel des impôts en disant « Monsieur le percepteur, j'ai triché dans ma déclaration d'impôt et depuis deux semaines, je ne dors plus bien la nuit. Veuillez trouver en pièce jointe 5 billets de 200 francs à l'époque, hein, ça date un petit peu. » Et puis l'administré, il avait écrit en pièce jointe, en PS, post-scriptum, il avait dit « Si je ne dors pas mieux dans les trois semaines qui viennent, je vous enverrai le reste. » C'est une histoire vraie. Il avait écrit de façon anonyme, hein, évidemment. Vous l'aurez compris, le problème de la culpabilité, tant que ça ne nous touche pas de près, eh bien, on vit avec et on ne cherche pas de solution. Et c'est triste à dire, mais il y a des gens qui souffrent de problèmes de culpabilité et qui laissent dans un coin le problème non résolu. On stocke, et on va le dire, il ne faut pas avoir peur des mots, la culpabilité, c'est comme des déchets radioactifs. Vous avez beau les enfermer dans un coffre-fort, la radioactivité et se moque du code secret du coffre-fort. Et vous l'avez compris, la culpabilité, ça induit des nuisances, des traumatismes nuisibles à la santé et à l'équilibre de la personne. Alors, pour introduire notre sujet, je voudrais lire deux textes. Un premier dans le prophète Zacharie, dans l'Ancien Testament, au chapitre 3, un texte bien connu. Josué, le souverain sacrificateur, qui se retrouve accusé par l'adversaire parce qu'il a des vêtements sales, qui symbolisent évidemment le péché qui nous colle à la peau. Et voilà ce que nous lisons dans Zacharie chapitre 3. Je lis dans les versets 1 à 5. Zacharie chapitre 3, versets 1 à 5. Alors c'est vrai, Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament. Bon, si vous trouvez Malachie, c'est bien. Avant Malachie, vous avez Zacharie. Hein, voilà, si vous ne l'avez pas trouvé, vous écoutez la lecture. Zacharie chapitre 3, verset 1er. Il, le Seigneur, me fit voir le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan, debout à sa droite, pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Verset 3. Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Et celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales !» Puis il lui dit, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent le turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements, et l'ange de l'Éternel se tenait là. Bien-aimé, quel texte extraordinaire qui souligne d'une part la culpabilité de l'être humain livré à ses propres ressources. Et Josué, tout sacrificateur qu'il était, il se sentait indigne. Et nous allons le dire, un des signes de la culpabilité, c'est un sentiment d'indignité, un sentiment d'infériorité, un sentiment d'auto-condamnation. La bonne nouvelle, et vous aurez remarqué que Josué n'a rien pu faire de lui-même pour changer son état, c'est quand il a plu à l'ange d'enlever ses vêtements sales, et il a dit au verset 4, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Je t'enlève. Et je voudrais, en introduction, arriver directement à ma conclusion. Mais rassurez-vous, vous aurez le développement entre les deux. La solution au problème de la culpabilité, c'est la purification du péché au moyen du sang de Jésus. Et la bonne nouvelle de l'Évangile que nous annonçons est que lorsqu'il est question de pardon, et ça, c'est la solution au problème de la culpabilité. Lorsqu'il est question de pardon dans l'Écriture, il y a toujours cette idée de séparation, cette idée d'enlever. Vous connaissez le psaume 103 ? Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant de nous, il éloigne nos transgressions. Le prophète Michée, au chapitre 7, dans les versets 18 à 20, il emploie cette belle image. Il dit que lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, eh bien, il les jette au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. Et Corrie ten Boom, cette femme de Dieu néerlandaise, avec un brin d'humour bien néerlandais, elle dit, lorsque Dieu jette nos péchés au fond de la mer, il plante une pancarte et il écrit « Pêche interdite ». Pourquoi ? Eh bien, parce que il nous arrive trop souvent de demander pardon à Dieu plusieurs fois pour les mêmes péchés que nous avons confessés. Comme si Dieu n'avait pas compris la première fois. Et en raison de notre incrédulité, nous déterrons les cadavres des péchés que nous avons confessés et nous les faisons remonter à la surface. Comment voulez-vous vivre la vie chrétienne victorieuse dans de telles conditions ? Cette idée de séparation se trouve encore dans Ésaïe 6. Lorsqu'Ésaïe a eu une vision de la sainteté de Dieu, et la libération est venue quand Ésaïe s'est entendu dire « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Alors le mot « expié », c'est un vocabulaire technique qu'on ne trouve pas dans le Parisien en première page. Le mot « expié » dans la Bible, c'est un terme technique qui veut dire « couvrir ». Lorsque vous invitez des personnes pour un repas d'anniversaire ou un repas de Noël, un repas spécial, vous sortez la belle nappe du dimanche ou des grandes occasions. On peut dire que la nappe, elle fait l'expiation de la table, dans le sens que cette nappe, elle couvre l'étendue de la table. De la même façon, quand on fait son lit, il existe encore des couvre-lits, comme on appelait ça. Le couvre-lit, il cache tout ce qui est en dessous. Il peut y avoir la misère. Au moins, on essaye d'enlever les plis. En général, les garçons, les hommes qui doivent faire leur lit, s'ils sont soigneux, ils essayent au moins de soigner les apparences et on élimine les plis. Et puis, il y a le couvre-lit qui couvre toute l'étendue du lit. Eh bien, techniquement parlant, le couvre-lit, il fait l'expiation du lit. Et l'Écriture nous dit que Jésus est la victime expiatoire. Il a fait l'expiation de nos péchés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sang versé à la croix du calvaire, Dieu l'a jugé pleinement suffisant et parfaitement satisfaisant pour couvrir l'étendue et la gravité de mon péché. Bien-aimé, en vous ayant dit cela, je vous ai dit ma conclusion, mais j'espère que vous allez quand même rester jusqu'à la fin de mon message. Cette idée de séparation, on la trouve encore Dans le texte de l'évangile de Jean, Jean, quand il a vu Jésus apparaître, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et on va dire que la culpabilité, c'est un mal qui nous colle à la peau. La Bible affirme « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Livré à mes propres ressources, je suis pécheur, donc je suis coupable devant Dieu. Le péché me colle à la peau et je ne peux pas m'en séparer. Le prophète Ésaïe utilise cette image d'un léopard qui a des taches sur son pelage et qu'il est impossible d'effacer par des moyens humains. Il n'y a que le sang de Jésus qui puisse effacer la tache de notre péché. Et donc, la bonne nouvelle de l'évangile que nous annonçons répond, et en plein dans le mille, à ce grand problème qu'est la culpabilité. Nous pensons parfois que la culpabilité, c'est un problème dont souffrent les gens religieux, les gens qui vont à l'église, les gens qui vont prier, comme on entend dire. Non, détrompez-vous. La culpabilité, c'est un problème existentiel qui touche chaque être humain, qui touche l'homme d'affaires, le TNS, j'ai appris ce mot-là en parlant avec Pierre, un travailleur non salarié, un membre d'une profession libérale qui est 5 jours sur 5 dans la semaine, costume 3 pièces, attaché caisse et laptop dans l'autre main et qui court pour attraper son taxi. La culpabilité, c'est pas seulement pour, j'allais dire, ceux qui sont laissés pour compte au bord du chemin, mais ça concerne l'homme moderne. Et le drame aujourd'hui, c'est que dans nombre de nos institutions spécialisées, on traite par voie médicamenteuse ou chimique un problème d'ordre moral. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas recourir à la science médicale ni aux médicaments. Mais je dis qu'un problème d'ordre moral et spirituel, tel que le péché le nomme, tel que la Bible le nomme péché, ce n'est pas la chimie qui peut apporter une réponse satisfaisante à ce problème de vie. Mais il n'y a que le sang de Jésus qui purifie de tout péché, qui puisse nous mettre au large et mettre une séparation. J'ai dit autant l'être humain livré à ses propres ressources, le péché lui colle à la peau. Lorsque il confesse son péché, eh bien, Dieu désolidarise le pécheur et le péché. Le péché, c'est Jésus qui l'a endossé à la croix, à ma place, de sorte que, au travers du sang de Jésus, Dieu a réglé le compte du péché en la personne de Jésus, et le pécheur, il est libre, il est désolidarisé, il est séparé de son péché. Voilà le message de l'Évangile que l'Église de Jésus-Christ a pour tâche et mission de proclamer. Et c'est d'une actualité, d'une pertinence qui tombe à point nommé. Un deuxième texte que j'aimerais lire, c'est dans le psaume 51. Alors le psaume 51, c'est le grand psaume du repentir, un psaume de repentance. Il a été écrit dans des conditions assez dramatiques. Le roi David, tout roi qu'il était, et homme qui craignait l'Éternel, il est tombé là où il n'aurait jamais dû tomber. Il a commis l'adultère avec Bathsheba. Et pendant de longs mois après son forfait, alors non seulement il a commis l'adultère avec Bathsheba, mais évidemment, un péché en menant à un autre, il a tout fait pour cacher sa faute. Plutôt que de la confesser sur le champ, il a essayé de maquiller son péché, en éliminant le mari gênant. Et d'une façon ignoble, David a fait mettre le mari de Bathsheba en première ligne du combat pour qu'il meure au combat. Nous lisons cette sinistre histoire dans 2 Samuel chapitre 11. Et ce chapitre se termine avec cette mention, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Alors pendant de longs mois et pratiquement pendant 9 mois, David a continué son métier de roi. Je ne sais pas s'il a encore pu trouver l'inspiration qu'il fallait pour composer les psaumes que nous lisons dans le psautier. Je ne sais pas comment il a fait pour continuer de rendre la justice, mais pendant de longs mois, il était tourmenté par un mal intérieur. La Bible dit que on peut cacher des choses aux autres, on peut tromper les hommes, ou même tromper sa femme ou son conjoint, mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on a semé, tôt ou tard, va nous retomber dessus. C'est la loi boomerang. Ce que je sème, retour à l'expéditeur. Ça me retombe dessus. Et quand bien même ici-bas, pas vu, pas pris, ni vu ni connu, ça passe, eh bien, devant Dieu, ça casse. Et ça ne va pas le faire, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et il a fallu attendre 9 mois pour que David crache le morceau et qu'il reconnaisse sa culpabilité. Et dans les 150 psaumes du psautier, nous avons 2 grands psaumes du repentir, le psaume 32e et le psaume 51e. Et je me propose de lire certains passages du psaume 51. Et voilà ce que dit David. Psaume 51, « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » J'ouvre une parenthèse ici. Vous remarquerez que dans sa prière, de sa confession, David, public, parce que le péché avait eu un retentissement public et il fallait une confession publique, David n'est pas entré dans des détails scabreux de cette sinistre affaire. David a reconnu que tout péché est d'abord un péché contre Dieu. Alors vous savez, de nos jours, on entend, même parfois dans nos églises évangéliques, dans certains groupes de jeunes ou dans des églises évangéliques tout simplement, des gens qui disent « Ah mais vous savez, nous on s'aime, nous on fait l'amour entre nous, on ne fait pas de mal à personne, au contraire, on se fait du bien, et ça ne concerne que nous, ça ne regarde que nous, et voilà. » David a dit « Mais moi ce que j'ai fait en secret, j'avais pensé pas vu, pas pris, ça s'est su et ça a eu un grand retentissement. » David dit ici, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Alors bien sûr, David avait péché contre Dieu d'abord, il avait péché contre Bathsheba et il a péché à plus d'un titre contre le mari de cette femme qu'il a fait assassiner. Mais voyez, il a fallu du temps pour que David intègre, mais ça a tilté et David a reconnu que tout péché est un péché contre Dieu, qu'on le veuille ou non. On appelle ça la culpabilité objective. Je prends un exemple. 3h du matin, dans une agglomération limitée à 50 km/h, vous déboulez à 75 km/h. Pas de radar, pas vu, pas pris, pas d'agent de police. C'est cool. Vous ne vous sentez pas coupable. Vous n'êtes pas coupable parce que vous vous dites « je ne ressens pas la culpabilité ». Mais d'après le code de la route, vous avez dépassé les 50 km/h, même s'il était 3 heures du matin, même s'il n'y avait pas d'agent de force de l'ordre. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure avec mon histoire du contribuable. La culpabilité, tant qu'elle ne nous touche pas de près, eh bien, j'allais dire, on vit avec. Et on stocke des déchets radioactifs. Vous imaginez le tableau quand on est bourré de culpabilité? Et on va le voir, et les psychologues nous disent, mais cela a des conséquences dans bien des domaines, parce que ça reste à l'intérieur. Vous savez, l'être humain, il a une conscience. C'est un peu comme une... Autrefois, on parlait des vidéocassettes, maintenant, il faut parler des DVD, mais un DVD qui peut enregistrer. Quand le DVD est sur mode enregistrement, eh bien, que vous le vouliez ou non, le DVD, il fait son job, il enregistre. Vous pouvez dire, vous pouvez nier le fait, non, ça ne s'est pas passé comme ça, vous pouvez nier, mais c'est enregistré. Ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été entendu et c'est enregistré. Et la conscience, c'est ça. Qu'on le veuille ou non, la conscience, on va le dire, c'est un instrument de mesure, très sensible, fragile. mais qui a perdu de sa sensibilité suite à la chute. La conscience, si vous voulez, c'est un peu comme une balance limitée à 50 kilos. Vous mettez une charge de 150 kilos dessus, et évidemment, après, la balance est batifole. Elle a perdu le nord. Elle a perdu de sa sensibilité, de sa précision et de sa fiabilité. Eh bien, on peut dire que la conscience, elle est un peu comme cette balance déréglée. Quand on a l'habitude de la malmener, eh bien, arrive un moment où elle ne fonctionne plus correctement. Vous savez, dans certains dispositifs, dans certains systèmes électriques, il y a des dispositifs de sécurité. Et s'il y a un problème, une surcharge d'intensité, par exemple, il y a une lumière rouge qui s'allume. Alors, il y a toujours des petits malins pour enlever la lampe. Et donc, vous pouvez dépasser les limites, la lumière rouge ne va pas s'allumer, ne va pas clignoter. Donc, c'est cool. Pas vu, pas pris. Mais il ne faut pas se leurrer. Comme le DVD enregistreur, ce qui a été fait, ça a été fait. Et on ne peut pas revenir là-dessus. Et rien n'échappe à Dieu. Et donc, c'est tout le problème de comment gérer les déchets radioactifs qui découlent de la pratique du péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la volonté de Dieu, de la loi morale instituée et voulue par Dieu. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord. La Bible affirme « tous ont péché ». Alors bien sûr, bien des gens ne croient pas cela, ne se reconnaissent pas coupables. Mais il n'est pire coupable que celui qui s'ignore. Et quand on se reconnaît coupable, le souci, c'est de savoir comment et quelle solution trouver. Je reviens au psaume 51, verset 7. Voici, dit David, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais toi, tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Vous avez vu ce qu'il dit au verset 12, au verset 13, « Ne me rejette pas loin de ta face. » Et évidemment, le péché induit une séparation entre Dieu et moi. Et quand on en prend conscience, c'est terrible de se savoir séparé de Dieu. Alors, je voudrais revenir à ce que j'ai dit sur la conscience. L'apôtre Paul, dans Romains 2, versets 14 et 15, il dit que le païen, même s'il n'a pas d'instruction religieuse et s'il ne connaît pas la loi de Moïse, quand il regarde la création, il doit comprendre qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Et alors, il en parle surtout au chapitre 1er, et au chapitre 2, versets 14 et 15, il dit que l'être humain, dans sa conscience, il a plus ou moins le sens du bien et du mal. Alors, j'ai dit que la conscience est un instrument de mesure qui a pu être fragilisé par le péché et qui a pu perdre de sa fiabilité. Et c'est vrai que la conscience, elle est aléatoire. Je prends l'exemple, le roi David. Dans le texte de 1 Samuel 24, rappelez-vous, le roi David, qui était pourchassé par le roi Saül, avait à portée de main Saül qui était endormi dans une grotte. Et les amis de David ont dit, eh bien voilà, c'est l'Éternel qui le met à ta portée, tu n'en fais qu'une bouchée, quick, et on n'en parle plus. Et David s'en est bien gardé. Il a simplement découpé un morceau de son manteau. Et l'Écriture nous dit que David, il sentit son cœur battre. Il avait du scrupule à avoir porté la main sur loin de l'Éternel. Ne serait-ce qu'en ayant que découper un morceau de son manteau. Quelle conscience scrupuleuse et recommandable. Par contre, ce même roi David, quand il a commis l'adultère avec Bathsheba et quand il a cherché à éliminer le mari gênant et qu'il y est parvenu, où était sa conscience? Peut-être que sa conscience parlait en disant « David, si tu fais cela, tu es vraiment le premier des salauds. » Pardonnez-moi l'expression, mais David est passé outre. Et notre conscience, on peut la violenter et passer outre. Donc, la conscience est un instrument de mesure qui a perdu de sa fragilité et de sa fiabilité. Mais, Dieu soit béni, notre conscience, elle peut être éclairée. Elle peut être rééduquée. Notre cher frère qui est venu au culte avec deux béquilles ce matin, j'imagine qu'après, il y aura de la rééducation. Et on sait que c'est laborieux, c'est du travail, mais Dieu soit béni, et il faut prier pour les kinés, hein, qu'ils soient de bons conseils. Mais c'est beau quand même de voir ce qu'on arrive à faire. On peut rééduquer un membre. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que notre conscience, qui a perdu de sa fiabilité, elle peut être rééduquée par l'action de la parole de Dieu, par l'action du Saint-Esprit qui va utiliser la vérité de la parole de Dieu pour m'aider à penser dans le bon sens et à me conformer à l'Écriture. Donc la bonne nouvelle, c'est que plus on marche avec le Seigneur, plus notre conscience devient sensible à la voix de Dieu. Et la parole de Dieu a cette vertu de changer notre cœur, notre être intérieur, notre façon de voir et notre façon de vivre. Et en ce sens-là, Dieu soit béni, la conscience, elle peut nous éclairer. De là à dire que ma conscience est la voix de Dieu, c'est un pas qu'il ne faut pas franchir. Parce qu'encore une fois, la conscience reste aléatoire. Et j'aime beaucoup l'équilibre de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Voilà ce que disait Paul. Il dit « Moi, je n'ai rien sur la conscience, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié, car celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Et donc, dans 1 Corinthiens 4, versets 3 et 4, Paul, enfin connaisseur qu'il était de la nature humaine, il était conscient que même s'il se sentait clean devant Dieu, eh bien, au final, il reconnaissait que, au final, c'est Dieu qui tire un trait au bas de la page. Et c'est lui qui va mettre les pendules à l'heure et rendre le juste verdict. Alors, la Bible parle d'une conscience mauvaise ou une conscience qui n'a pas été purifiée. Hébreux 10, 22 parle d'un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Notre conscience, elle doit être aiguisée, exercée pour discerner le bien du mal. Notre conscience, elle peut être hypersensible dans certains domaines, pointilleuse. Il y a des gens hyper légalistes qui sont pointus jusqu'à vérifier le point sur le i. Et Jésus a dénoncé cette attitude parce que dans certains domaines, on est hyper scrupuleux et dans d'autres domaines, on est laxiste à l'envi. Et Jésus a employé une image très forte. Il a dit « Hypocrite, vous filtrez le moucheron mais vous avalez le chameau. » Ça veut dire, vous êtes rigoriste, vous êtes exigeant, vous êtes pointilleux, vous êtes vétilleux sur des points de détail, au point qu'ils comptaient le nombre de feuilles de menthe qui poussaient dans leur jardin pour être sûr qu'ils en donnaient 10% à l'Éternel. Et en soi, on pourrait dire, waouh, quel grand chrétien, il faut les prendre en photo ceux-là et les inviter au JT de 20h. Mais à côté de ça, eh bien, ils étaient cool, ils étaient trop cool, ils étaient laxistes et il y avait beaucoup de laisser-aller dans d'autres domaines qui étaient plus importants aux yeux de Dieu, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc on peut facilement être hypocrite et filtrer le moucheron et avaler le chameau. Notre conscience, elle peut être cautérisée. Vous savez, quand on se brûle les doigts, nos doigts, ils ont des terminaisons nerveuses et avec l'influx nerveux, ça induit un message au cerveau, ça induit la sensation de froid, de chaud. Quand nos terminaisons nerveuses ont été cautérisées, elles ne fonctionnent plus. Et à force de violenter sa conscience, d'aller à l'encontre de ce que Dieu appelle bien et d'aller dans le sens de ce que Dieu appelle mal, notre conscience, elle perd de sa fiabilité et elle devient silencieuse. Elle devient inerte, elle devient, pour employer l'écriture, insensible ou cautérisée. Et Paul parle de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi, des menteurs hypocrites marqués au fer rouge dans leur propre conscience, qui abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, dans 1 Timothée 4, versets 1 et 2. Alors Dieu soit béni, la Bible elle parle aussi d'une bonne conscience. C'est une conscience qui est purifiée par le sang de Jésus. Proverbe 4, 23 nous dit, Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, 23 « Veillez sur son cœur. » Le cœur, c'est le quartier général de la personne, dont découlent les facultés mentales et intellectuelles, dont découle la volonté, dont découle l'affectivité, les émotions, et c'est le siège de la conscience. « Mon fils, donne-moi ton cœur, est-il dit dans l'Écriture, c'est donner à Dieu les pleins pouvoirs et lui donner les clés du quartier général. » Et Paul, l'Écriture nous invite à garder une bonne conscience, non seulement devant Dieu, mais devant les hommes, dans Actes 24, verset 16. Et dans 1 Timothée 1, 18 à 20, Paul dit que cette bonne conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. 1 Timothée 1, 18 à 20. Alors s'efforcer d'avoir une bonne conscience, ce n'est pas mission impossible. Ce n'est pas un vœu pieux. Dans 1 Timothée 3, Paul dit que un responsable d'église doit satisfaire à certaines exigences. Et il le résume en un mot, il dit « Il faut qu'il soit irréprochable. » Waouh, la barre, elle est haute. Alors, irréprochable, ça ne veut pas dire avoir 10 sur 10 dans toutes les matières et être 100% toujours au top, au-dessus de la médiocrité internationale. Parce que si c'est ça que ça veut dire, eh bien, les responsables d'église, il faudra les chercher sur une autre planète. Et parmi des personnes qui ne descendent ni de Adam ni de Ève. Être irréprochable, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ne plus jamais pécher, mais ça veut dire avoir mis sa vie en règle. Avoir confessé les péchés dont je suis conscient, les avoir placés sous le sang de Jésus, avoir été purifié, être clean par la grâce de Dieu, au point que personne ne peut m'accuser en disant « Ah ouais, mais il y a ceci ou il y a cela que tu n'as pas mis en ordre dans ta vie personnelle. » Alors bien sûr, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin non plus. Je l'ai bien dit, personne n'a 10 sur 10 dans toutes les matières. Et il y a toujours des gens qui veulent trouver des poux sur le crâne des chauves et qui vont finir par en trouver en coupant les cheveux en quatre. Et c'est bien connu, l'adage nous dit que quand on veut tuer son chien, parfois, on l'accuse d'avoir la rage. Et il y aura toujours des gens de cet acabit. Mais, pour autant, par la grâce de Dieu, pour Paul, ce n'est pas mission impossible que d'être irréprochable. Et un chrétien spirituellement adulte, dans la foi, par la grâce de Dieu, il veille à entretenir une conscience pure. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand je prends conscience que devant Dieu je suis en faute ou envers mon prochain, eh bien je ne vais pas cacher sous le tapis, comme parfois quand les hommes balayent, ils cachent des choses sous le tapis ou dans un coin en disant pas vu, pas pris, hein. Non, mais ça veut dire assumer, ça veut dire 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et la clé dans 1 Jean 1:9, c'est confesser son péché. Le mot confesser, ça vient d'un mot grec, homologeo. En français, ça a donné homologué. Homologeo, ça veut dire quoi? Il y a logeo qui veut dire, et homo, c'est la même chose. Quand je confesse mon péché, j'homologue ma situation, dans le sens que je tombe d'accord avec Dieu pour appeler péché ce que la parole de Dieu appelle péché. Et je plaide coupable. Je reconnais la réalité des faits. Je tombe d'accord avec Dieu. J'aligne mon point de vue sur le point de vue de Dieu. C'est ça, confesser son péché. Et la belle promesse de 1 Jean 9, c'est si nous confessons nos péchés, si nous tombons d'accord avec Dieu sur le verdict qu'il pose, si nous acceptons d'appeler péché ce que la Bible appelle péché, le sang de Jésus me purifie et Dieu me libère, me pardonne. Voilà ce que c'est que d'être, de devenir irréprochable et d'entretenir une conscience pure. Alors, on parle de culpabilité. Il y a deux sortes de culpabilité. On va dire qu'il y a la bonne culpabilité et puis il y a la mauvaise culpabilité. Parfois, notre conscience, elle peut nous accuser alors que nous sommes irréprochables. Et dans d'autres circonstances, notre conscience, elle peut nous donner quitus, nous dire « tout est ok, tout est clean », alors qu'elle devrait nous reprendre parce que devant Dieu, nous sommes coupables. Et puis, dans la Bible, il y a deux sortes de culpabilité. La Bible dit que un des sinistres ministères du diable, c'est d'être l'accusateur des frères. Mais l'accusateur des sœurs aussi, on est bien d'accord. Le diable, et vous avez remarqué dans le texte que j'ai lu dans Zacharie 3, il y a, à la fin, quand l'ange a changé les vêtements du souverain sacrificateur, il est dit « Et l'ange de l'Éternel se tenait là !» Ça, c'est précieux. Parce qu'il sait très bien que l'adversaire, il cherche à accuser. Et l'adversaire, il était là simplement pour dézinguer le souverain sacrificateur, pour l'accabler et pour le condamner et l'accuser. Et le drame, c'est que le diable, en tant qu'accusateur, eh bien, il connaît son registre et il s'y adonne. Et il fait des victimes. Et il y a des chrétiens qui vivent avec des sentiments d'infériorité, de culpabilité, qui vivent dans la défaite parce qu'ils écoutent les accusations du diable. Et ils n'ont pas compris la réalité de 1 Jean 1,9 que si je confesse mes péchés, eh bien Dieu est fidèle et juste pour me les pardonner et me purifier de toute iniquité. Et dans le rituel du Lévitique, quand on lit le rituel du Lévitique, et notamment dans le livre du Lévitique, toutes ces règles fastidieuses sur les sacrifices, le rituel du Lévitique nous enseigne de grandes leçons. Nous enseigne d'abord que dès lors qu'il y a transgression de la volonté de Dieu, eh bien, qu'on le veuille ou non, cela induit un état de culpabilité. La deuxième grande leçon, c'est que face à un tel état de culpabilité, il faut trouver une solution. Et la solution que le rituel, que Dieu avait préconisé dans le rituel du Lévitique, c'était un sacrifice expiatoire qui couvre l'étendue et la gravité du péché, mais un sacrifice substitutif. La substitution, c'est le fait de prendre la place de quelqu'un d'autre. Et le moyen que Dieu avait préconisé, c'était un animal innocent qui payait pour un coupable. C'est ça la substitution, quelqu'un qui prend la place de l'autre. L'Épître aux Hébreux nous dit bien que tout le rituel lévitique n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité, elle est en Christ. Et la bonne nouvelle est qu'elle, et Dieu soit béni, quelle image très forte. Jésus est la victime expiatoire et substitutive. Celui qui a pris notre place, lui qui était innocent, il a été traité comme un coupable, pour que le coupable que je suis puisse être considéré comme un innocent. C'est ça le miracle de la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Et c'est là tout le message de l'évangile que nous annonçons. Et donc le rituel du Lévitique, et moi j'aime beaucoup cela et je l'ai souligné dans ma Bible et je peux vous dire que c'est glorieux. À chaque fois qu'un Israélite avait offert un sacrifice dans les règles préconisées par le Seigneur, eh bien il avait cette garantie, j'allais dire garantie sur facture. Il est écrit noir sur blanc, et il lui sera pardonné, et il lui sera pardonné. Ça c'est la bonne nouvelle. Et 1 Jean 1,9 récapitule tout l'enseignement du rituel lévitique. Alors le diable, lui, il veut nous faire douter du pardon que Dieu nous accorde en Christ. C'est ça sa stratégie. Et c'est en cela qu'il est l'accusateur des frères et des sœurs. Il veut nous faire douter du pardon que Dieu nous a acquis à la croix du calvaire en la personne de Jésus. Et il veut nous maintenir dans la culpabilité, dans l'échec. Et il veut faire de nous des vaincus. Il veut nous garder dans la défaite. Et c'est la raison pour laquelle il nous accuse. Et lorsque le diable nous accuse, l'accusation du diable, elle est vague. Elle est imprécise. Elle est générale. Vous savez, c'est un peu comme vous avez été invité à un repas de mariage. Il y avait 3 hors d'œuvre. Il y avait ensuite 2 plats de résistance. Il y avait bien sûr le fromage, la salade, et puis 2 ou 3 desserts. Et à la fin, vous ne savez plus si vous êtes dans le monde réel ou dans le monde virtuel. Et le lendemain, on se sent un peu barbouillé. Hein. Et dans ces moments-là, il vaut mieux boire du thé vert et manger un fruit, si on a encore faim, mais pas trop charger la barque. Et parfois, on a un sentiment de nausée à l'intérieur, n'est-ce pas ? Lorsque le diable, il accuse... c'est flou, c'est vague, c'est général. Il veut nous jeter de la poudre aux yeux pour nous maintenir dans l'échec du passé, dans le découragement, et nous dire « Mais non, tu vois, tu retombes toujours dans le même péché. Hein. Tu es mauvais, hein. t'es ceci, t'es cela. » Et il veut nous maintenir à terre. Alors ça, c'est la fausse culpabilité, celle qui vient du diable. Maintenant, Dieu soit béni, il y a la bonne culpabilité. Celle qui vient du Saint-Esprit. Et là, il en est question dans Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8. Jésus dit, le consolateur est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Lorsque le Saint-Esprit nous convainc de péché, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a des gens qui pensent que il faut faire un travail sur soi et faire de l'introspection personnelle pour trouver ce qui ne va pas. Et il y a des gens qui pensent que, surtout avant la Sainte-Cène, c'est ça qu'il faut faire. Il faut fouiller, faire des recherches archéologiques, en recherchant jusqu'en l'ère du Quaternaire. Ça, c'est l'introspection. L'introspection, c'est un effort humain pour essayer par un travail sur soi. Et ça, c'est à la base de bien des démarches et des protocoles psychologiques. Mais c'est dangereux, l'introspection maladive, parce qu'on peut faire du hors-piste et on peut tomber dans les pièges de l'adversaire, tomber dans la culpabilité négative que le diable entretient. La culpabilité produite par le Saint-Esprit, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Comment savoir ? Eh bien, je lis la parole de Dieu et je laisse le Saint-Esprit utiliser la vérité de la parole de Dieu pour me convaincre de péché, de justice, de jugement. Je n'ai pas besoin de faire un travail sur moi. 1 an, 2 ans, je connais des gens, ça fait 2 ans qu'ils payent du psychiatre ou du... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que tout ça, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain ou l'eau du bain avec le bébé. Je n'ai pas dit qui est qui. Mais... En tout cas, la parole de Dieu, elle a cette puissance de nous toucher dans notre être intérieur. Elle sépare jointure et moelle, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 4. Elle est puissante, elle est efficace, comme cette épée à double tranchant qui sonde les reins et qui met la vérité à nu. Et bien aimé, nous devons plutôt que de chercher à nous introspecter et de tomber à la merci de l'adversaire qui est l'accusateur, nous devons nous exposer à la lumière de la parole de Dieu. Et bien aimé, vous l'avez fait comme moi, cette expérience. Parfois, on lit un texte dans l'Écriture et on sent que le Seigneur met le doigt là où ça peut faire mal, mais là où c'est sensible, mais là où c'est nécessaire. Et cette culpabilité qui vient du Saint-Esprit, elle est claire, elle est nette, elle est précise, elle est caractérisée. Et c'est la parole de Dieu qui la met en lumière. Alors que la fausse culpabilité, elle nous induit dans la défaite. La vraie culpabilité, la bonne nouvelle, c'est qu'elle nous conduit à ce que la Bible appelle la repentance. Et dans 2 Corinthiens chapitre 7, Paul parle de la culpabilité qui mène au salut et à la vie, par opposition à la fausse culpabilité qui conduit au désespoir. Voilà ce que dit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 7. Verset 8, 2 Corinthiens 7, verset 8. « Si même je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Même si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. » Entre parenthèses. Le Saint-Esprit, il a utilisé la parole de Dieu, et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a touché la conscience des chrétiens de Corinthe, qui se sont sentis repris. Et Paul dit, vous n'avez subi de notre part aucun dommage. Il n'y a pas eu d'intrusion invasive de Paul entre la conscience des chrétiens et Dieu. Pas d'ingérence. Dans la littérature, on a parlé parfois des précepteurs de conscience. Mais ça, cela n'a rien de biblique. Personne ne doit s'interférer entre ma conscience et Dieu. Et Paul dit, c'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu de péché. Nous n'avons fait que proclamer la vérité, et c'est le Saint-Esprit qui a fait son œuvre. Et il dit, le Saint-Esprit vous a conduit à la tristesse. Mais la tristesse selon Dieu, la tristesse qui débouche sur une issue de secours, qui est le pardon et la libération. Et voilà ce qu'il dit au verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu, elle produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous ? Bien plus, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition ! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Un texte très fort, où Paul montre la différence entre la vraie et la fausse culpabilité. La fausse culpabilité induite par le diable, la tristesse selon le monde, elle mène au désespoir. Elle peut conduire au suicide. La bonne nouvelle, c'est que la conviction de péché qui vient du Saint-Esprit, elle doit déboucher sur la repentance. La repentance, c'est le fait de changer d'attitude, qui va nous amener à accepter d'appeler péché ce que la parole de Dieu appelle péché. La repentance, c'est une prise de conscience, un déclic intérieur qui fait que, eh bien, je plaide coupable. Je reconnais que Dieu a raison et j'accepte d'appeler péché ce que la parole de Dieu appelle péché. J'aligne mon point de vue sur le point de vue de Dieu. Et je tourne le dos à mon péché. Et j'invoque la purification du sang de Jésus qui va me couvrir et qui va me mettre au large. Et bien aimé, c'est ça, la réponse au problème de la culpabilité. Alors bien sûr, nos contemporains aujourd'hui, et pour ne parler que de l'Occident, nous vivons dans un pays riche, quoi qu'on en dise, bien des gens aimeraient trouver refuge dans notre pays. Bien sûr qu'il y a certaines personnes qui vivent dans la précarité ou en dessous du seuil de pauvreté. Bien sûr qu'il y a des problèmes de chômage. Bien sûr qu'il y a des problèmes, des gens qui ont de graves problèmes de santé, des gens qui se retrouvent dans des situations humainement parlant inextricables. Mais bien aimé, le problème du point de vue de Dieu le plus urgent à régler, c'est le problème de la culpabilité. Et qu'on le veuille ou non, chaque être humain en est atteint et doit trouver une réponse satisfaisante et adéquate. Et bien aimé, nous qui annonçons le message de l'Évangile, une fois de plus, nous tapons dans le mille. Nous répondons aux besoins criants de l'être humain. Il y a des gens qui pensent que les chrétiens et l'Église ont le chic de répondre à des questions que personne n'a posées. En tout cas, je peux vous dire que quand Jésus enseigner la parole de Dieu, ça tapait dans le mille. Jésus ne prêchait pas pour les absents, il s'adressait à ceux qui étaient présents, et on ne pouvait pas rester assis entre deux chaises une fois que Jésus avait parlé. On était pour ou on était contre. Mais si on prenait sa parole au mot, eh bien, il y a un avant et il y a un après. Le drame dans nombre de nos églises évangéliques, c'est qu'il y a des gens sympathiques, j'allais dire évangéliquement corrects, bien sous tout rapport, qui viennent religieusement à l'église, et dimanche après dimanche, qui vont venir prier, comme on entend dire, ou qui vont venir au culte. Le drame, c'est que pour nombre de ces personnes qui se disent chrétiennes, ça s'arrête là. Et le drame, c'est que ces gens viennent à l'église et repartent de la même manière qu'ils sont arrivés. Du point de vue de Dieu, ils arrivent avec des valises chargées de culpabilité. Et tant qu'ils n'ont pas confessé leurs péchés, tant qu'ils n'ont pas reçu la purification au moyen du sang de Jésus, tant que, pour employer le jargon évangéliquement consacré, ils ne sont pas passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, qu'ils ne sont pas nés de nouveau, eh bien ils repartent chez eux avec les mêmes valises chargées et un problème de culpabilité qui n'a pas été résolu. Et j'oserais même dire, avec une dose de culpabilité radioactive encore plus élevée que quand ils sont arrivés. Parce qu'ils entendent, dimanche après dimanche, les bonnes vérités bibliques, ils les laissent dans un coin, ça s'empile sur plusieurs niveaux, mais de l'autre côté, il y a la culpabilité qui n'a pas été traitée, il y a les déchets radioactifs. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Il ne faut pas remettre au lendemain ce que nous savons devoir faire aujourd'hui. Quelqu'un a dit, demain, c'est le mot du diable. Aujourd'hui, c'est le mot de Dieu. Quand on souffre d'un problème de culpabilité non résolu, non réglé, eh bien, on paye la facture. Alors, cette culpabilité, elle peut venir de différentes causes. Ça peut être une éducation qui a été trop rigide. Et puis, ça peut être on est influencé par des modes culturels et il est pas, chaque culture a des valeurs qui sont compatibles avec l'Évangile et chaque culture a des valeurs qui ne sont pas compatibles avec l'Évangile. Aucune culture n'est supérieure à une autre, mais dans certaines cultures, il y a des aspects qui sont incompatibles avec l'Évangile et qui, on va dire, induisent une forme de culpabilité. Hier soir, on a parlé des sentiments d'infériorité. On a dit qu'aujourd'hui, bien des gens vivent dans un climat où le message qu'on leur envoie, c'est « t'es nul, t'es bête, t'es moche ». Dépréciation de la personne. Il est évident que des enfants, des ados, des jeunes qui sont formatés par ce genre de message vont avoir une mauvaise image d'eux-mêmes, des sentiments d'infériorité et vont traîner un paquet de culpabilité. Et la question est de savoir où vont-ils trouver la solution. Un milieu qui abuse de la loi, qui serre les boulons et qui prend la loi pour taper sur tout ce qui bouge, ça peut induire de la culpabilité. Quand on souffre d'un problème de culpabilité non résolu, on développe des phénomènes de défense de soi, d'immunité naturelle, personnelle. On cherche à se protéger. Quand on souffre d'un problème de culpabilité non résolu, on peut avoir des sentiments d'auto-condamnation. Extérieurement, on donne bonne figure. Quelqu'un a dit, une personne qui souffre d'un problème de culpabilité qui n'est pas résolu, c'est comparable à un lac de haute montagne. Vous savez, il y a des lacs en haute montagne qui sont très beaux comme ça. Vous jetez une pierre et quand la pierre tombe au fond du lac, elle remue la vase et ça revient à la surface. Quelqu'un a dit également, employer une autre image pour parler d'une personne qui vit avec des problèmes de culpabilité non résolus, c'est comme enfermer un chien dans un sous-sol d'immeuble ou de maison. Le chien aboie, on a fermé la porte à clé, on croit que c'est clean, mais on entend les aboiements. Et Je disais tout à l'heure que la culpabilité, tant qu'elle n'est pas traitée, elle induit des déchets radioactifs, un peu comparables aux aboiements du chien, et qu'on le veuille ou non, dans telle ou telle situation, sous tel ou tel événement, qui réactive peut-être le souvenir d'un événement traumatisant dans le passé, eh bien cela va faire remonter à la surface des éléments difficiles à affronter. Quand on souffre d'un problème de culpabilité non résolu, ça peut même induire des réactions physiques. On parle des maladies psychosomatiques. Lorsque notre conscience nous accuse, notre être tout entier en pâtit. Dans Daniel 5, verset 6, il est question du roi Belshazzar, qui avait donné un festin, et tout d'un coup, il y a eu une vision, et c'est Dieu qui a envoyé un instrument pour écrire sur un mur, une inscription énigmatique, et Daniel 5, 6 nous dit que le roi Belshazzar pâlit, ses pensées l'épouvantèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux s'entrechoquaient. On appelle ça les maladies psychosomatiques. Un événement extérieur qui affecte notre vie intérieure, ça peut se répercuter dans notre métabolisme et dans la manière dont notre corps fonctionne. Ça montre bien que l'être humain, il est un tout. Et ce qui affecte une partie affecte l'autre. On ne peut pas supprimer comme ça, comme par magie, par enchantement, la culpabilité non traitée. Le roi David, au psaume 32, versets 4 et 5, voilà ce qu'il dit. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. » Et ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Psaume 32e, versets 4 et 5. Où là, David, bien avant les découvertes de la science moderne, a découvert que c'est lourd de vivre avec un péché caché. J'ai un ami dans notre église qui est chauffeur de taxi. Et un jour, il conduisait un monsieur. Et le monsieur, il était au téléphone. Et il lui disait « Oui chérie, tout va bien, je suis à Milan. » Et il était à Paris. Et une fois qu'il a terminé sa conversation, le monsieur dit à mon ami chauffeur de taxi « Vous avez une maîtresse, vous ?» Et mon ami dit « Ah non, pas du tout. » Et le monsieur lui dit « Ah ben vous avez de la chance, hein, parce que c'est pas évident à gérer. Hein. » Par contre, ce même ami chauffeur de taxi, un jour, il avait été appelé pour emmener une dame chez son psychiatre à Paris. Il y avait une demi-heure de trajet. Et mon ami, il est très optimiste et puis il évangélise tout ce qui bouge. Et après une demi-heure, mon ami, il s'est arrêté devant le cabinet du psychiatre. Et puis la dame, elle lui a dit, ben écoutez, hein, après tout ce que vous m'avez dit, j'ai plus besoin de le voir. Hein, ramenez-moi chez moi. Bon, vous voyez, hein, dans un sens comme dans l'autre, Dieu est grand. Je ne dis pas que ça marche comme ça à tous les coups. Et s'il y a des psychiatres dans l'assemblée, Dieu les aime et moi aussi. Hein, qu'ils soient bénis, mais je ne veux pas enlever votre travail. Mais David, il avait compris que tant que je me suis tu, mes os se consumaient. On sait tous qu'il y a des gens à l'approche de la mort qui ont encore des secrets à livrer. Et tant qu'ils ne se sont pas déchargés de ce poids qu'ils ont tenté de tenir caché pendant parfois des années, ils ne sont pas prêts à partir. Et c'est une fois qu'ils ont craché le morceau ou livré le secret qu'ils vont s'envoler. Moi, je suis impressionné par ce que David nous dit au psaume 51, verset 5. On a lu, David dit « Mon péché est constamment devant moi ». C'est obsédant, la culpabilité non traitée. Et je relis le psaume 32, verset 4 et 5. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi et ma vigueur n'était plus que sécheresse. » Vivre avec un problème de culpabilité non géré, je peux vous dire que c'est galère. Et on paye la facture très fort. Alors, il y a d'autres personnes, pour gérer la culpabilité, ils pratiquent ce que les psychologues appellent la compensation. Par exemple, le mari, en partant le matin, il a dit une parole blessante à son épouse. Le soir, il rentre, tout sourire, avec un bouquet de fleurs, en espérant que le bouquet de fleurs, dans la balance, va peser plus lourd que les méchantes paroles qu'il a dites à sa femme le matin. C'est la compensation. En général, toute épouse normalement constituée ne se laisse pas prendre à ce petit calcul. Alors, la conséquence logique et positive de la culpabilité, vous l'avez compris, ça doit déboucher sur la repentance. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on s'en repent, eh bien, on trouve le pardon. Je termine en rappelant l'œuvre de Jésus à la croix du calvaire. Et là, on est en plein dans le sujet. La Bible dit que Jésus est notre rédempteur. Ça veut dire que il a payé le prix fort pour racheter les pécheurs que nous sommes, nous qui étions esclaves de nos vices, de nos passions, de nos hormones. Jésus nous a rachetés, comme un maître riche pouvait acheter un nouvel esclave. Et cet esclave, il changeait de propriétaire. Et cette transaction pour que l'esclave entre au service d'un nouveau propriétaire, d'un nouveau maître, ça s'appelait la rédemption, to lutron en grec. Et bien la Bible dit que Jésus est notre rédempteur. Lui, il a payé le prix fort pour que nous ne soyons plus esclaves du diable, mais que nous changions de maître et de propriétaire, et que nous entrions au service du roi des rois et du seigneur des seigneurs. La Bible dit que Jésus, il a fait œuvre de, il était notre substitut. Il a endossé ma culpabilité. Lui qui était innocent, il a accepté d'être traité comme un coupable pour que le coupable que je suis puisse être considéré comme un innocent. La Bible dit que Jésus a fait œuvre d'expiation en livrant sa vie. Eh bien, son sacrifice a été jugé suffisant pour couvrir l'étendue et la gravité de mes péchés. Celui qui a fait expiation. La Bible dit que Jésus est celui qui nous permet d'être justifié. Être justifié, c'est être acquitté, être considéré comme innocent, être déclaré juste. Et ça, c'est au travers du sang de Jésus que Dieu me désolidarise de mon péché. Mon péché a été endossé et puni, sanctionné en la personne de Jésus, et moi, je suis libéré. Et c'est ainsi qu'en vertu du sang de Jésus, je suis équipé pour vivre à la hauteur de la volonté de Dieu. Et la Bible utilise cette image de entrer par la porte étroite. Jésus a dit, il y a deux portes. Il y a une porte très large. Plus on est de fou, plus on rit. Seulement, cette voie facile, elle mène à la perdition. La porte large, c'est celle des propres justes, des gens religieux, qui s'estiment suffisamment à la hauteur pour ne pas avoir besoin de se repentir de leurs péchés. La porte étroite, c'est le chemin incontournable, le passage obligé de la repentance, où je plaide coupable, je confesse mes péchés et je me laisse purifier par le sang de Jésus. Et sur ce chemin resserré de la sanctification, eh bien, Dieu me conduit à la vie éternelle. Et ça, tout est question de repentance. Et puis, quand je me suis repenti de mes péchés, l'Écriture enseigne que pour obtenir le pardon, eh bien, là où c'est encore possible, je dois pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Et ces œuvres dignes de la repentance peuvent inclure la réparation du mal que j'ai fait, là où il est encore possible de réparer pour s'acquitter et vivre avec l'assurance d'être parfaitement pardonné. Nous allons prier en terminant et je vous invite à baisser la tête et à réfléchir à tout ce que nous avons considéré. Et la question personnelle que j'aimerais vous poser, c'est: est-ce que vos péchés ont été couverts par le sang de Jésus? Est-ce que vous avez invité Jésus à devenir votre sauveur et votre Seigneur? Est-ce que votre problème de culpabilité personnelle, il a été placé sous le sang de Jésus? Parce que si tel n'est pas le cas, la Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le mot de Dieu, et demain, c'est le mot du diable. S'il y a des choses qui ne sont pas encore claires, que vous n'avez pas comprises, eh bien, venez voir l'un de vos responsables, le pasteur Jean-Claude ou le frère Pierre ou moi-même, on est à votre disposition. C'est une question importante, sérieuse, qu'il vaut la peine d'examiner. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Nous te remercions pour ces choses qui ont été écrites pour notre instruction. Merci pour le Saint-Esprit qui les a inspirées. Tu connais notre cœur à chacun. Veuille que personne ne ressorte de ce lieu de la même manière qu'il est entré. Nous prions que le Saint-Esprit ait toute liberté d'appliquer la vérité de la parole de Dieu à ma situation, à notre situation. Donne-nous le courage, l'honnêteté spirituelle d'appeler péché ce que la parole de Dieu appelle péché. Fais-nous la grâce de régulariser notre situation et d'avoir l'assurance du pardon de nos péchés, et que nous passerons l'éternité dans ta présence, sachant que ton retour est proche et peut advenir d'un instant à l'autre. Aide-nous à repasser ces choses dans notre cœur. Nous t'adorons, nous nous aimons les uns les autres, et nous te remercions pour la vérité de ta parole. Au nom de Jésus. Amen.